Libres échanges.
Animé par Olivier Lostis
et Gabriel Seban.
Libres échanges au-delà des frontières de chacun.
Pour interroger l'évolution de notre société, des points de vue, des interrogations pour un vivre ensemble autrement.
Émission spéciale Libre-Échange consacrée au harcèlement en entreprise. Avec comme invité spécial, Philippe Arbouche, avocat, formateur juridique. Alors, dans le champ large de la souffrance au travail, le harcèlement est une des causes de souffrance particulièrement pernicieuse et sournoise.
Oui, bien sûr. Et lorsqu'on pense et lorsqu'on parle de souffrance au travail, on évoque peut-être les conséquences de cette souffrance, c'est-à-dire la réalisation... les burn-out, enfin, ce à quoi on aboutit. Mais c'est vrai qu'à l'origine de la souffrance au travail, d'abord c'est multifactoriel, mais le harcèlement est un des facteurs qu'on identifie, somme toute, assez facilement, dont les conséquences sont une souffrance avec toutes les conséquences, enfin, toutes les conséquences que cela implique. Alors, si je puis me permettre, le problème, c'est qu'on n'est pas forcément toujours au clair sur la définition du harcèlement. C'est parfois une espèce de fourre-tout qui est devenue à la mode. C'est désagréable de dire ça, mais c'est aussi une réalité. On entend parler beaucoup de harcèlement et on n'a pas toujours la définition très stricte en tête. Alors c'est vrai que je suis juriste et que j'ai tendance à vouloir tout mettre dans des petits casiers. Mais là, c'est quand même, à mon avis, utile de rappeler la définition. C'est un article du code, hein, je ne vais pas lire le code en entier, mais les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sont interdits. Donc ce qu'il faut retenir, c'est les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail sont interdits. Et la jurisprudence a ajouté les agissements répétés et vexatoires. Donc là, on a le cadre légal, la base de ce qu'on peut appeler un harcèlement et à partir de laquelle on va pouvoir réfléchir sur le salarié qui est en souffrance ou la personne qui est en souffrance. Alors on est dans le cadre du travail, hein. La personne qui est en souffrance au travail a-t-elle été l'objet, est-elle victime d'un harcèlement, c'est-à-dire d'agissements, je répète, répétés et vexatoires, ayant pour objet ou pour effet une altération de son état de santé. Voilà, c'est ça la définition. Et c'est la base sur laquelle on peut s'appuyer, se reposer.
Alors, en amont de cette réalité-là, est-ce que, sur le plan juridique, il y a on souligne plus particulièrement une intention de malveillance ou de nuisance?
Alors, on est sur ce qu'on appelle, nous, l'appréciation souveraine des juges du fond. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des situations qui vont être étudiées au cas par cas. L'élément intentionnel est-il requis? Hein, c'est ça, je reformule, moi, toujours à la sauce juridique, mais l'élément intentionnel est-il requis? Quand on relit la définition, c'est ayant pour objet ou pour effet. Voilà. Donc, pour objet, c'est j'ai une pratique de management qui a pour but, finalement, pour un tas de raisons compliquées, de faire du mal aux gens, peut-être parce que je suis une immonde crapule, ou peut-être tout simplement parce que j'ai tellement besoin d'avoir des résultats positifs financiers que je suis prêt à tout pour ça. Ça, ça a pour objet. Mais il y a aussi la seconde partie, le second volet qui est important, intéressant, c'est « ou pour effet ». C'est-à-dire qu'on va avoir des modes de management où le manager, le responsable, le contremaître, le chef d'équipe, qui on veut, ne se rend pas compte que ce qu'il fait est une forme de harcèlement, entraîne une souffrance au travail. Je vais faire par exemple le lien avec la discrimination, ce qu'on appelle des blagues à deux balles. Bon, toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes « ah oui, mais c'est normal, toi t'es breton, ou toi t'as des lunettes », enfin bon. Ou autres propos pas plus élégants que ça, et peut-être encore plus discriminatoires. À force d'entendre toute la journée que c'est normal qu'on n'y comprenne rien parce qu'on est un Auvergnat ou parce qu'on est chauve, bah, ces faits-là altèrent l'état de santé. Au bout d'un moment, on dit « mais finalement, je suis un bon à rien ». Voilà. Pour répondre un peu longuement à la question, c'est qu'il n'y a pas toujours une intention, mais le management, la façon dont on s'occupe des gens et dont on s'intéresse à eux, dont on les commande, peut avoir pour conséquence de générer un harcèlement, donc une souffrance au travail.
Alors, cette souffrance au travail, elle peut être, dans ce que vous me dites, directement initiée par le management, mais elle peut être aussi transversale, c'est-à-dire par des personnes qui n'ont pas de lien hiérarchique entre elles et qui peuvent avoir une incidence sur l'équilibre même et sur l'organisation même du travail.
Oui, c'est la spécificité du harcèlement. C'est-à-dire qu'on imagine toujours que, ou on peut imaginer que le harceleur, c'est le N plus 1, comme on dit, qui demande des choses invraisemblables ou qui a une attitude vexatoire. Mais on peut avoir aussi des collègues, qui mettent en place un système de harcèlement dont sera responsable l'employeur. Et on peut même avoir du harcèlement, et ce ne sont pas des cas isolés, du salarié envers son employeur, du N-1 envers le N. Alors ça peut sembler invraisemblable, parce qu'on se dit, bah non, le chef, il a toujours la possibilité de dire arrêtez vos histoires. Pas du tout. J'ai eu à connaître d'une situation dans laquelle un responsable d'équipe changé d'équipe, et donc il prend une nouvelle fonction, il a une dizaine de personnes à commander, à s'occuper, ça se passe dans une ambiance sympathique, etc. Et une personne qui a été frustrée, qui n'a pas eu la promotion qu'elle souhaitait, etc., se met à véritablement en vouloir à ce chef, et lui monter une situation vraiment d'une tension très très forte, et déposer plainte pour harcèlement, en disant « vous me harcelez ». Attention, le vrai harcèlement, c'est une catastrophe humaine, une catastrophe de santé, une catastrophe de dignité, enfin c'est une catastrophe. Le faux harcèlement, c'est une catastrophe, parce que lorsque vous êtes obligé de vous justifier alors que vous n'avez raisonnablement rien fait de mal, c'est un choc, une onde de choc. Alors, je respecte infiniment les personnes qui sont harcelées et qui sont en situation de violence et de souffrance, mais pensons aussi que les choses ne sont pas toujours aussi simplistes qu'on voudrait nous le faire croire.
Oui, la souffrance est bien sans doute réelle, à moins qu'elle ne soit que le prétexte à un règlement de compte, mais ce qui est troublant, et le mot-clé peut-être, est ce terme d'ambiguïté.
Oui.
Parce qu'en fait, il est dit que lorsque je reviens au management, parce qu'il est effectivement, je dirais, responsable, lorsque le management est volontairement impliqué dans un processus, ou même lorsqu'il ne l'est qu'involontairement. On rentre dans un questionnement sur la condamnation, finalement.
Alors, la jurisprudence, les décisions de justice précisent quand même de plus en plus ce qu'on doit considérer comme étant du harcèlement. Mais il y a une chose qui attire mon attention, c'est qu'on prend toujours les décisions qui sont rendues par la Cour de cassation, c'est-à-dire la plus haute juridiction française. Quand la Cour de cassation a rendu sa décision, il n'y a plus rien derrière. Enfin, voilà. Bon. Et donc on dit c'est la jurisprudence. Mais il faut bien se rendre compte que dans la vie quotidienne, la jurisprudence, c'est le conseil des prud'hommes de tel endroit, le tribunal correctionnel de tel autre. Et que les gens ne font pas toujours appel d'une décision, parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué, parce que c'est long, et vont encore moins souvent en cassation. Donc on ne parle pas, évidemment, de ce qu'on n'appelle pas, nous, la grande et vraie jurisprudence, mais on ne parle pas assez, à mon avis, de ce que sont les décisions de justice avec leur ambiguïté dont vous parliez. Et j'ai en tête notamment une décision, je vais bien sûr pas vous lire l'intégralité, mais je vous donne les faits. Ça se passe dans un milieu agricole où l'employeur met à disposition, donc il a changé ses techniques, il a mis à disposition à des ouvriers saisonniers des logements dans des conditions très décentes. Moi je les ai vus, on n'est pas du tout dans l'exploitation des gens, c'est très correct. C'est une majorité de travailleurs saisonniers, donc très jeunes, des jeunes gens en contrat à durée déterminée, et il y a une jeune fille parmi eux. Tout le monde fait bien son boulot, mais l'employeur a mis à disposition ses logements. Et le soir, ses salariés, au lieu d'aller payer je ne sais combien, sont logés là, sur place, pourrait-on dire. Et ce sont des jeunes. Hein. Bon, ça peut concerner des vieux, mais là, c'est des jeunes. Les gamins, je les appellerai les gamins, ne trouvent rien de mieux que d'enquiquiner leurs collègues. Et de gratter à la porte, de faire des allusions sur son état physique, etc. Et cette jeune fille se trouve le soir complètement soumise. Alors ça ne va pas au-delà de il n'y a pas d'atteinte physique, mais elle est enquiquinée. Et elle arrive un jour dans le bureau de son employeur et elle hurle en disant « j'en ai marre, j'en peux plus, qu'on me traite de ceci, qu'on me traite de cela ». L'employeur ne comprend pas du tout, lui il a toujours été très correct et pendant le déroulement du contrat de travail ça se passe bien. La jeune fille, malheureusement, donc, s'en va, et elle tombe malade au point même qu'elle soit hospitalisée en psychiatrie. Donc c'est très sérieux. Elle fait une procédure dans laquelle elle se plaint de harcèlement. Bon, l'employeur se défend en disant « mais moi je ne vous ai jamais harcelé ». Et la décision de justice que j'ai sous les yeux, alors c'est une décision de première instance, donc ça n'est pas une cassation. Donc effectivement, c'est pas la grande décision, c'est... Bon. Mais... attendu en l'espèce, ça c'est comme ça que c'est écrit, hein, qu'il appartenait à monsieur un tel, prévenu par mademoiselle une telle, et informé que les services de l'inspection du travail n'aient pas trouvé confirmation des faits, etc., il appartenait donc à l'employeur, hein, je reviens à ça, de mettre fin en sa qualité de propriétaire, d'employeur, ou pour le moins de citoyen responsable, aux agissements et autres débordements machistes de certains de ses salariés. Autrement dit, le propriétaire aurait dû mettre fin à ça, mais, et la cerise est là où je veux en venir, c'est que il n'est pas condamné pour harcèlement, ah bon, alors que je viens de vous lire qu'il aurait dû mettre fin, mais que on donne quand même des dommages et intérêts à cette jeune fille. Pas énorme, mais on lui donne 4 sous, plus que. Bon. Donc l'employeur ne fait pas appel, il est content, il dit « je suis pas harceleur ». Et la jeune fille, elle ne fait pas appel parce qu'elle dit « j'ai été reconnue dans mon statut de personne souffrante ». Qu'est-ce qu'on peut faire d'une décision comme celle-là? Et ce sont des décisions, je ne dis pas quotidiennes pour ce qui nous concerne, mais qui font écho à ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça devrait être clair, ça devrait être quelque chose de lumineux, et c'est malheureusement assez souvent ambigu, ou trop souvent ambigu. Les juridictions ont tendance à couper la poire en deux, comme on dit. Ah oui, mais tout n'est pas tout blanc. Évidemment, hein, c'est sûr. Alors il y a le vrai harcèlement, et celui-là, bon, il n'y a pas photo, hein, quand on voit une personne qui n'arrive même plus à s'exprimer et qui dit « non, je ne veux pas faire de procédure parce que j'ai qu'une envie, c'est d'oublier ce qui s'est passé », on se dit là, il y a quelque chose. Bon. On a des gens qui instrumentalisent, hein, ça existe bien sûr, mais très souvent on a un mode de management qui n'est pas adapté, qui est violent, sans l'intéresser, sans rendre compte, il tombe un peu de l'armoire quand on lui dit « mais il ne faut pas faire ça, enfin, ça ne se fait pas ». Je ne veux pas revenir sur les affaires France Télécom dans lesquelles je n'y étais pas, mais j'ai lu des articles de presse, donc c'est vraiment de la presse, hein, voilà, c'est des journaux, hein, bon. On va dire que qu'il y a eu une recherche de vérité, mais enfin, des modes de management à l'époque chez France Télécom, où des managers donnaient un bonbon, un carambar, quand un de leurs salariés décrochait un contrat pour un nouveau abonnement téléphonique. Je veux dire, si c'est pas de l'infantilisation, et si au bout de la 10e fois, ça confine pas à une forme de harcèlement, c'est répétée, et c'est quand même très vexatoire, quoi. Si je donne un bonbon à mon salarié qui fait bien son travail, franchement... Alors, à la suite de ça, l'inspecteur du travail est venu, et le manager a dit « Oui, vous avez raison, j'ai peut-être été pas à la hauteur. » Il faut quand même le lire pour le croire. À la suite de ça, il a demandé aux salariés qui décrochaient un nouveau contrat commercial, chaque fois que l'un d'entre eux réussissait à cela, il l'autorisait à mettre une boule dans le sapin de Noël. Ce qui est quand même une grande progression. Voilà. Alors là, c'est plus du management, c'est de la connerie, quoi.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas
Alors je reviens un petit peu à la loi et au jugement. La loi qui en principe organise la protection.
Oui.
Et là dans l'exemple que vous nous donnez, il n'en est plus question. Il est simplement question de rapprocher, de médiater en quelque sorte le sentiment du juste de chacun des parties. Et on différenciera ce sentiment du juste d'une justice qui se fait juste parce que effectivement elle a exploré le problème, elle en a trouvé les racines et elle en a éradiqué les futurs rebondissements.
Ah oui, alors à travers cette question, vous posez là une question, je vais dire très philosophique. Si on relie à la souffrance au travail, c'est le rôle de la justice. Et je vais peut-être résumer un peu, je vais me permettre, mais est-ce que la justice est juste, quoi ? Voilà, c'est ça. Alors, on va partir de l'idée selon laquelle la justice a, comme vous le dites, les moyens d'explorer et d'aller voir tous les éléments qui constituent l'affaire dont s'agit. Bon, on le voit avec les grandes affaires médiatiques, un juge d'instruction est désigné, il peut enquêter autant comme autant, saisir, interroger, etc. Dans les affaires d'une moindre importance, en tout cas au plan médiatique, mais importante pour les gens, le juge effectivement fait ce travail. Bien. Mais vous touchez là un point sensible, c'est que pour la personne, si je reprends mon petit exemple là, l'employeur qui est qui n'est pas harceleur dans l'exemple, mais qui est condamné à verser 500 euros, il a le sentiment que c'est pas juste tout ça. La jeune fille qui a le sentiment d'être harcelée, on dit vous ne l'êtes pas, mais on lui donne 500 euros quand même, elle a le sentiment que c'est pas juste.
Voilà, tout à fait.
C'est très difficile. Là, vous renvoyez à l'acte de juger sur une problématique très sensible, qui est celle de souffrance en général, et tout particulièrement de souffrance au travail. Et l'employeur, le juge va prendre les éléments dont il dispose, va entendre tout ça, mais en aucun cas ne va rectifier une situation de souffrance au travail. C'est-à-dire qu'on est sur un état de fait qui s'est constaté, il y a ou il n'y a pas harcèlement, il y a ou il n'y a pas souffrance au travail, mais le juge ne peut pas reconstituer la vie de l'entreprise. Et certaines entreprises sont pathogènes, développent volontairement quelque chose qui va aboutir à la souffrance au travail au nom d'un management d'efficacité de ceci et de cela.
On pense à la France Télécom en particulier.
Alors, eux, parce que ça a été médiatisé, mais d'autres encore. D'autres endroits, alors là où je suis moi attentif, c'est qu'aujourd'hui se développent des chartes de bonne conduite, des oh là là, alors là c'est extraordinaire, tout le monde parle d'éthique, de bonne conduite, de gouvernance, de bonne gouvernance. Alors là, on n'a que ce mot-là à la bouche et c'est très très bien. Dans la réalité, il y a quand même un retour sur investissement aux actionnaires. Je veux dire, je veux pas stigmatiser le profit. C'est notre fonctionnement de société. Et il est ce qu'il est. Et voilà. Mais d'un côté, on est un peu en schizophrénie quand même. Hein. D'un côté, on parle d'une bonne gouvernance et surtout du bien-être des gens. C'est dans les chartes. Et puis derrière, on voit des actes managériaux qui collent pas du tout, quoi. Et au milieu de tout ça, il y a celui ou celle qui subit une souffrance au travail et qui constate que on ne met pas en accord ses principes avec ses actes. Et ça c'est dramatique parce que c'est la perte de confiance, quoi. C'est la perte de confiance et qui va générer une autre souffrance encore.
Alors là, on ouvre la porte sur le mot-clé de responsabilité de l'employeur. Est-ce que finalement, le sens même de l'action n'est pas produit au moment de l'action elle-même? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il a nécessité dans sa responsabilité de veiller à une présence, ou pour ne pas dire une omniprésence, au moment, effectivement, de chaque acte, de chaque moment d'organisation de l'activité.
Alors, je vais vous donner, en tout cas, je vais donner une piste. Dès qu'on est employeur, c'est-à-dire dès qu'on a une personne sous sa responsabilité, salarié, une personne, on est tenu de faire un certain nombre de documents techniques qui sont rendus obligatoires par la loi, au nombre desquels il y a le document unique d'évaluation des risques. Bon, quand on s'est penché un petit peu sur la question, très rapidement, on voit de quoi il s'agit. C'est par exemple, dans un studio d'enregistrement comme celui-ci, eh bien, on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas des câbles qui traînent par terre, de façon à ce qu'on ne tombe pas, bien sûr, toutes ces choses physiques.
Et que la chaise ne soit pas électrique.
Et que la chaise ne soit pas électrique, ça, on s'en rend vite. Bon. Donc tout ça on peut le quantifier. Hein, dans le bâtiment, il faut des équipements individuels, des chaussures de sécurité, un casque, etc. Il y a une législation spécifique pour chacun des métiers, et on peut le comprendre. Mais au-delà de ça, l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, qui donc est l'institut de référence pour créer ces documents de santé, de sécurité, oblige à ce que dans le document unique d'évaluation des risques soit inclus les risques psychosociaux. Alors ça c'est super, mais il faut quand même donner aux gens les moyens de comprendre ce dont il s'agit. Mettre des chaussures de sécurité, on voit de quoi il s'agit. Mettre un gilet fluorescent pour aller sur la cour quand il y a un risque, on voit de quoi il s'agit. Réfléchir sur la souffrance au travail, sur le harcèlement et la discrimination, encore faut-il avoir la formation de base pour savoir ce qu'est la souffrance au travail. Je ne veux pas dire un tas de gens, mais un certain nombre de nos concitoyens ont un comportement qui génère de la souffrance alors même qu'ils n'ont pas conscience de ce comportement. Alors, sont-ils stupides? Pas forcément. Manquent-ils d'informations? Ça, c'est sûr. Par exemple, à force d'entendre toute la journée ce que je disais précédemment, toi c'est normal parce que, prenons un grand classique, À vous, c'est normal, dans les bureaux, vous êtes au chaud et vous vous rendez pas compte de la réalité du terrain. Bah, à force d'entendre ça toute la journée, ça peut générer, donc je me rends compte de rien, donc je suis dans la souffrance. Donc moi, si vous voulez, en réponse à votre question, l'employeur a des moyens, le document unique d'évaluation des risques en est un, et il est tenu aussi à une obligation de sécurité de résultat. Ça veut donc dire que l'employeur doit se donner les moyens pour mettre en sécurité le salarié, notamment au regard de la souffrance au travail, qui est une problématique relativement nouvelle. On s'était intéressé à la souffrance physique, tout n'est pas réglé, loin de là, mais on savait un peu faire. Là, on introduit le risque psychique. Ça, je peux vous dire que pour beaucoup de managers de proximité, c'est une source de... C'est même pas d'inquiétude, ils ouvrent des yeux ronds. Hein. Lorsque je dis ça en formation, les gens me disent « Mais attendez, nous, on n'est pas formés à la psychologie, quoi. J'ai quelqu'un qui est dépressif, qu'est-ce que je fais, moi ?» Et c'est à l'employeur de donner au manager de proximité les moyens de comprendre ça et d'éviter tout développement de souffrance au travail.
Est-ce que dans la fragilisation que produit le harcèlement, il y a des échelles de gravité ou qu'on peut les anticiper?
Oui, parce que la loi a été assez bien faite de ce point de vue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un salarié se plaint, voilà comment j'envisage les choses, quand un salarié se plaint et laisse entendre à son employeur, N+1 ou qui on voudra, etc., ou les représentants du personnel, je me sens discriminé, je me sens harcelé. La loi oblige à ce qu'il y ait une enquête. Et les entreprises qui ont mis ça en place, toutes devraient l'avoir fait normalement, mais je pense à une grande entreprise de transport notamment, en région parisienne, qui a le monopole aujourd'hui des métros, mais pas pour longtemps, et la RATP donc j'ai travaillé un petit peu avec eux, j'ai vu un peu de près comment ça se passait. À partir du moment où un salarié se plaint d'un harcèlement, systématiquement une enquête, bon c'est pas la seule entreprise, hein, mais systématiquement une enquête est mise en place, une enquête à laquelle est associée le CHSCT, auquel sont associés les services de santé au travail, l'employeur, et on enquête sur les conditions réelles, y a-t-il ou non harcèlement. Donc, on met en place une sorte de politique de prévention à l'issue de laquelle on peut établir si oui ou non il y a eu harcèlement. Bon, beaucoup de grandes entreprises le font, pas toutes, mais presque toutes. La difficulté, c'est pour les PME, ou les entreprises de moyenne importance dans lesquelles le harcèlement existe, et l'employeur n'a pas toujours le réflexe de mettre ça en œuvre, et puis c'est compliqué, c'est long, c'est lourd. Mais à partir du moment où on a un CHSCT, à partir du moment où on a des représentants du personnel, la loi impose qu'il y ait une enquête, même toujours, hein, et la loi impose l'enquête, et quand l'enquête a lieu, on peut, à l'issue de cette enquête, dire au salarié, ben oui, là, vous avez été harcelé, donc nous en tirons les conséquences pour éventuellement vous indemniser, ou changer de poste, etc. Ou au contraire, non, il n'y a pas harcèlement. Donc c'est un élément objectif.
Alors quand on en arrive là, c'est qu'effectivement, on a franchi le pas, qu'on a pris conscience de cette souffrance, ce qui n'est pas d'ailleurs aussi évident que ça, dans un premier temps. Mais n'est-on pas amené à rester en deçà d'une démarche de peur de représailles, tout simplement?
Bien sûr.
Et alors, comment gérer ça, du coup?
Eh bien, si j'avais la formule, j'aurais la baguette magique, gérer ça... C'est d'abord, je crois, par l'information et la formation que ça passe. Mais il est clair qu'il y a des entreprises, il y a des structures dans lesquelles, malheur à celui dont la tête dépasse, celui qui va se plaindre, ou en tout cas évoquer le fait qu'il est peut-être harcelé ou discriminé ou qu'il souffre au travail, il y a des entreprises dans lesquelles, au jour d'aujourd'hui encore, c'est la porte, hein. Alors c'est la porte plus ou moins élégamment, mais aujourd'hui, quand on veut noyer son chien, ça existe encore. Donc il y aurait un travail en amont à faire.
De libérer la parole, en fait.
De libérer la parole. Et là, on ne peut que regretter, si vous voulez, le débat est plus vaste, hein, mais que les services de santé au travail aient été à ce point remisés dans un coin. Bon, c'est pas tout à fait, c'est un peu excessif, mais quand même, les services de santé au travail ont un très grand rôle à jouer sur une anticipation des risques, sur une aide à l'employeur pour qu'il prenne conscience des risques. Les instances représentatives du personnel doivent jouer leur rôle dans cette problématique. Encore faut-il qu'elles soient formées. Je pense aux délégués du personnel, bien sûr, aux CHSCT, le management. C'est quand même, on le voit clairement. Moi, j'interviens pas mal en RH, et on voit clairement des politiques RH qui sont tournées vers le bien-être au travail, au-delà des chartes, hein, au-delà de l'aspect purement déclaratif, des gens qui sont tournés vers le bien-être au travail, et d'autres, au contraire, pour lesquels, on a d'autres soucis en ce moment, quoi. Et là, dans ces entreprises-là, moi, je suis démuni et je suis pas le seul. On peut pas faire grand-chose, avec en plus le chantage à l'emploi parfois qui existe et qui est bien réel. Hein, les risques de délocalisation, c'est pas des bêtises. Hein, bon.
Alors ça laisse supposer, à travers les points d'appui sur lesquels vous avez développé l'argument, que les pratiques du harcèlement peuvent évoluer et s'intensifier en fonction des époques. Est-ce que c'est le cas ?
Ouais, c'est quand même un peu plus sournois actuellement. C'est-à-dire que le harcèlement grossier, il existe toujours, mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est dans l'esprit même c'est dans l'idée même du harcèlement, dans l'ouvrage de Madame Irigoyen, dans la littérature qu'on peut lire autour de soi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe dans le harcèlement ? Pour qu'il y ait un harcèlement, il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Bon. Quelqu'un émet quelque chose, mais le récepteur, si vous êtes, vous, en bonne forme et que je vous envoie une vanne relative à je ne sais quelle caractéristique, parce que vous avez des lunettes, ça ne va pas vous gêner, parce que vous êtes costaud en ce moment. Si le récepteur reçoit le message à un moment où il est faible, où il est fragile, ça va le fragiliser encore plus. Or, le harceleur, celui qui est dans cette vraie problématique de harcèlement, le vrai harceleur, allais-je dire, il n'agit qu'à l'égard des gens qui sont faibles. C'est-à-dire que, comme par hasard, la cible est toujours quelqu'un qui est en état de faiblesse, c'est vrai pour le harcèlement sexuel comme pour le harcèlement moral, qui est en état de faiblesse, qui va pas très bien, qui a un souci. Et ça ajoute. Et une des caractéristiques, c'est que le vrai harcèlement, nous on le voit, avec les gens n'ont même plus le courage de remonter la pente. Et ce vrai harcèlement, ces vrais actes de harcèlement nécessitent effectivement ou supposent que le harceleur, intuitivement, sait déjà qu'il peut harceler quelqu'un. Donc on harcèle déjà quelqu'un qui est en situation de fragilité. Et c'est ça qui rend les choses dramatiques. Moi, quand je suis bien dans ma tête, vous pouvez toujours m'envoyer 2-3 vannes, je vais vous donner la réplique. Si par contre je suis pas bien, ce jour-là, peut-être que ça va faire mouche et que ça va encore davantage me dégrader mon image, enfin la vision que j'ai moi. Et
à travers cet éclairage, on pourrait presque parler de prédation. Et du coup, on pourrait se demander si certaines entreprises, et loin de pointer l'ensemble des entreprises à travers ce que je vais dire, certaines entreprises n'utilisent pas ce moyen-là pour se défaire d'employés dont elles n'auraient plus envie de conserver la présence.
Alors, pour moi, très clairement, oui. Maintenant, aller trouver l'entreprise qui va dire « Oui, chez nous, notre politique RH consiste à faire en sorte que les gens s'en aillent d'eux-mêmes, comme ça, ils démissionnent, n'ont pas besoin de payer de licenciement. » Bon, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Donc, ce que je dis, moi, ne n'engage que moi. On pourrait avoir des grands débats avec des représentants du patronat, des organisations professionnelles. Bon, on n'est pas la petite maison dans la prairie. Il y a même un fondamental qu'il faut rappeler, c'est que l'employeur dispose du pouvoir de direction. Et qu'à un moment donné, alors ça choque toujours quand je dis ça, je dis à mes étudiants, parce que je suis enseignant, je leur dis, est-ce qu'on peut se séparer de quelqu'un ? Tiens, je vous veux plus, vous. Hein, vous êtes mon salarié. Allez, dégagez. Est-ce que je peux le faire ? Alors, tout le monde me dit, mais non, quand même. Ah bon ? J'ai pas le pouvoir de direction. Alors, bien sûr que ça va me coûter cher. Bien sûr que ça va me coûter de l'argent, que vous allez aller au prud'homme et que vous allez gagner. Si je vous licencie sans motif. Mais je vous aurais licencié. Le résultat des courses, il est très simple. Et le pouvoir de direction appartient à l'employeur. Et ça, c'est une donnée. Je ne peux pas ici la remettre en cause. Je n'en ai ni la volonté, ni le temps, ni les moyens. Et puis, c'est pas le débat. Mais par contre, quand vous parlez de prédation, évidemment, de prédateur, évidemment que quand ça va pas très bien, on va isoler une ou deux personnes, et comme par hasard, ces personnes-là, parce que ça fait boule de neige, hein, parce qu'à partir du moment où on règne par la terreur dans une entreprise, et ça existe, bah la terreur, ça se sait, et tout le monde se tait. Et comme par hasard, les représentants du personnel sont inexistants ou quasi, comme par hasard, le turnover est très important. Alors, ce sont toujours des signes hein, qui s'accumulent, il n'y a jamais qu'un seul signe, mais turnover important, des gens qui demandent à partir en formation toutes les 3 minutes, c'est très bien, hein, la formation c'est génial, hein. Et même je vais être très sexiste en disant ça, mais des dames qui se disent à un moment donné, bah, autant que je fasse mon enfant maintenant, parce que de toute façon ça va pas très bien au boulot, donc au moins je serai en congé maternité et au moins ce sera fait parce que j'ai envie d'avoir plusieurs enfants, ce que je dis peut paraître sexiste, mais ce sont des réalités que je constate dans les entreprises quand je discute avec certains RH qui me disent on a repris tel ou tel secteur, et on s'est rendu compte qu'il y avait ça, 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 le turnover, le ceci, le ceci, le cela, et que c'était révélateur d'un management qui était un management violent. Violent. Bon, c'est pas... comme vous le dites, hein, très justement, mettons pas tout le monde dans le même sac, loin de là. C'est pas parce qu'on a un voleur dans une communauté que toute la communauté est composée de voleurs. C'est pas parce qu'il y a des patrons voyous que tous les patrons sont voyous, et etc., etc. Mais ne pas le dire serait quand même un petit peu fort de café. C'est un constat.
Alors, on a parlé de traces ou d'éléments qui étaient tangibles et qui justifiaient le harcèlement. Je voudrais qu'on termine cet échange par un questionnement. Aujourd'hui, le travail est une rareté pour beaucoup. Et le travail est une monnaie d'échange en soi par rapport à une capacité à s'adapter, à se modéliser suivant le desiderata qui nous impose de le faire. Est-ce que finalement ce pouvoir-là, qui peut jouer sous des formes sournoise, pas forcément explicite dans le fait, mais dans la réalité de l'impact. Est-ce que cette forme-là d'intervention du pouvoir de l'entreprise ne pourrait pas être assimilée à un harcèlement social ?
Si, si, bien sûr. Il y a des entreprises dans lesquelles il ne faut pas aller, hein. Il y a des entreprises dans lesquelles il ne faut pas aller.
Comment les reconnaît-on ?
Ça, c'est difficile. Et c'est malheureusement quand on y est, généralement, qu'on se dit « Mais qu'est-ce que je fiche là-dedans » Bien sûr, le travail est rare. Et quand on en a, on le prend. Et je pense notamment à des travaux, à des tâches qui sont du travail à temps partiel, des emplois précaires ou l'équivalent, etc. Ben oui, il y a ça. Ouais, à l'expérience, je vois que effectivement les choses tournent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans telle entreprise, c'est plutôt pathogène. Puis à un moment donné, après, on réorganise et ça va plutôt moins mal. Ça s'est remis en place, etc. Ça tourne, hein, le harcèlement. Ça tourne. Ce sont essentiellement des hommes et des femmes qui, à un moment donné, pour des raisons peut-être personnelles, compliquées ou stratégiques, veulent mettre en place ou mettent en place un fonctionnement anti-harcèlement, mais ces gens-là tournent, bon, ils ne restent pas, eux-mêmes peuvent être harcelés, etc. Donc je ne peux pas généraliser autour de ça, je peux dire simplement que effectivement les temps sont durs. Alors, le harcèlement a toujours existé, il y a toujours, simplement on ne mettait pas un nom dessus. Et la souffrance était caché ou masqué derrière autre chose. On disait « Ah, ça va pas très bien en ce moment. Ah tiens, j'ai mon chef, et puis on disait « Quelle andouille » ou bien pire que ça. Aujourd'hui, les gens pour garder un emploi sont effectivement prêts à beaucoup de choses et un certain nombre d'entre eux prêts à se taire. Et je crois que ce qu'il faut, je veux pas conclure là-dessus, mais la pire des choses, c'est de garder pour soi, quoi. Et c'est de ne pas avoir un relais, un tiers facilitateur, un tiers médiateur. Ça peut être son conjoint, ça peut être un représentant du personnel, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui en qui on a confiance, à qui on doit pouvoir dire, dis donc, on m'a dit ça et ça, est-ce que tu trouves que c'est normal ? L'intéressé peut dire, bah oui, écoute, ne sois pas non plus paranoïaque, hein, c'est pas méchant, mais ça donne un signe, ça renvoie à quelque chose. Garder tout pour soi, mais c'est vrai dans bien d'autres domaines, hein, garder tout pour soi, ben, c'est ne pas pouvoir partager, ne pas pouvoir demander un avis et entrer la souffrance en soi. Je crois qu'à partir du moment où la souffrance, qui est réelle, ou qui est ressentie comme telle, à partir du moment où on peut le dire, on peut en parler à quelqu'un de confiance, et on peut se faire aider dans cette réflexion-là, déjà il y a un pas de franchi. Ce qui est violent, c'est, et c'est malheureusement la fin, j'allais dire, de cette, non pas entretien, mais de ces risques psychosociaux, c'est que à quoi tout cela mène-t-il ? Bah, on a quand même des suicides aujourd'hui. Et là, bon, même si c'est multifactoriel, on est obligé de se dire, voilà, ça a échoué, quoi.
Je crois qu'on laissera peser ce silence. Merci, bonne journée, au revoir à tous.
Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time. Bringing rocks out here on a chain gang. 'Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there and let me hit it well. Well, I reckon that honor get it, yeah. I've been working, oh well, and I still got so terribly long to go on. Breaking humming rocks on a chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang. 'Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, and I still got some time left long to go. Been convicted of crime, what I've needed. The crime of being hungry and poor. Left the grocery store man bleeding when it caught me robbing a store. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, and I still got some terribly long to go. Heard the judge say 5 years hard labor on a chain gang, you've got to go. Heard that dirty judge say 5 years hard labor. Heard my woman scream, Lordy, no.
off and run. Wanna go lay down somewhere shady, 'cause it sure gets hot here in the sun. Hold it steady right there and let me hit it. Well, I reckon that oughta get it. I've been working, still got some time long to go. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, 'cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, still got some time long to go. I've been working, I've been slaving, still got some time long to go. I've been working, I've been slaving.
Grand Ciel.
Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel et nous vous donnons la parole sur notre page Facebook. Réagissez, commentez, faites-nous part de vos coups de gueule ou de vos coups de cœur et surtout, restez connectés à l'actualité de votre radio préférée.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Voilà le délice. souvenir, voilà le délice. Sorry.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
You gotta love.